Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Les FARDC dénoncent une énième fois des actes de violation du cessez-le-feu par les terroristes du M23. Ces derniers ont attaqué plusieurs positions de l'armée vendredi et hier dans le Massissi. Entre-temps, le gouverneur Constant Ndima reprend le commandement des opérations militaires au Nord Kivu. Il y a nécessité de revisiter le contrat chinois dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la RDC dans l'exploitation de la sicomine. Le chef de l'État l'a signifié au dernier conseil des ministres. Félix-Antoine Tshisekedi faisait ainsi suite aux conclusions du rapport de l'IGF sur le contrat chinois. Et puis, le lieutenant-colonel Mark Azukai est l'invité de ce journal. Le porte-parole des forces conjointes des armées congolaises et ougandaises à Beni et à Irumu parle notamment de l'évolution des opérations militaires contre les ADF sur terrain. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a repris ses fonctions de commandant des opérations militaires au Nord Kivu. La cérémonie de remise et reprise entre lui et le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu, a eu lieu vendredi au centre de coordination des opérations à Goma. Ces deux autorités militaires ont ensuite inspecté hier samedi différentes positions qui constituent les verrous de la ville de Goma contre la menace des envahisseurs du M23. Et leurs alliés, le Rwanda. Dans un communiqué rendu public ce même samedi par le gouverneur de province, les FARDC dénoncent une énième fois des actes de violation du cessez-le-feu par les terroristes du M23 qui ont attaqué plusieurs de leurs positions le 17 et 18 mars dans le Massissi. Le point avec vous, Noëlla Luzitu Kabambi.
Dans son mot, lors de la cérémonie de remise et reprise avec son successeur hier vendredi, le gouverneur militaire a rappelé que leur présence au Nord Kivu n'est pas de faire du tourisme, mais plutôt de restaurer la paix dans cette province. Pour sa part, le lieutenant-général Mangu Mashita, qui venait de faire une année environ à la tête de ces opérations, devrait déjà regagner Kisangani, son quartier général de la 3e zone de défense. Ces deux responsables militaires, accompagnés de toute la chaîne de commandement, ont inspecté ce samedi différentes positions de l'armée, notamment à Kibumba et Rusayo, dans le territoire des Nyiragongo, puis à Kimoka et Mubambiro, dans le groupement Kamuronza, pour la remise et reprise de terrain. Tout en soulignant que la situation sur le terrain était relativement calme ce samedi, le gouverneur militaire a une fois de plus constaté une nouvelle violation du cessez-le-feu par le M23 dans le territoire de Massissi, où des affrontements ont été signalés ce samedi dans la matinée. Les FARDC indiquent dans un communiqué publié ce samedi que la coalition M23-RDF a attaqué simultanément le 17 et le 18 mars leurs positions en Pati, Rabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Rubaye et Nyamuzimu dans la chefferie de Baoundé, territoire de Massissi, et les affrontements sont encore en cours.
Rappelons que le gouverneur Constant Ndima a été réhabilité dans l'intégralité de ses fonctions et attributions de gouverneur militaire par arrêté du ministre de la Défense et ancien combattant avant d'être notifié le 15 mars par le chef d'état-major général des FARDC. Par ailleurs, dans le territoire de Beni, plusieurs voix s'élèvent pour demander l'extension des opérations militaires conjointes des armées congolaises et ougandaises dans certaines zones du territoire où elles ne sont pas encore déployées. C'est le cas de la société civile du territoire de Beni qui souhaite ce déploiement dans la chefferie de Bachou où plusieurs attaques ADF ont été enregistrées cette semaine qui s'achève. Des attaques ayant causé la mort d'une centaine de personnes. Répondant à cette préoccupation, le porte-parole des forces conjointes FARDC UPDF d'y avoir orienté cette préoccupation aux autorités compétentes. En attendant, il demande à la population de résister et à faire preuve de patriotisme. Le lieutenant-colonel Mark Azukai est au micro d'André Kitenge.
Depuis un certain moment, nous recevons beaucoup de correspondances de nos compatriotes de Ouitcha et de Bachou qui ont constaté avec nous que l'ennemi a fui les actions que nous sommes en train de mener dans Rwenzori, au sud de Dirumu. C'est une préoccupation que nous partageons parce que nous sommes les premiers à faire ce constat que l'ennemi ne peut plus affronter les forces de la coalition. Il a tendance à se desserrer l'étau et nous travaillons par rapport à cela. Toutes les doléances de nos compatriotes ont été transférés à qui de droit. C'est un travail de longue haleine. Ça fait mal que moins d'une semaine que nous perdons beaucoup de compatriotes comme ça. C'est un souci. Voilà, c'est une préoccupation que nous partageons. J'ai beaucoup de respect pour la population meurtrie de Beni et ses environs. C'est une population qui, depuis un certain moment, subit cette pression terroriste de l'ennemi. C'est une population résiliente que je connais. Je demande à nos compatriotes de résister et de continuer à faire preuve de résilience et aussi de patriotisme.
Pendant ce temps, les femmes du Sud Kivu exigent la fin totale de la guerre dans la province voisine du Nord Kivu pour un retour de la paix dans cette partie du pays. Elles se sont ainsi exprimées en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ce regroupement des femmes du Sud Kivu propose aux chefs de l'État d'engager des réformes sérieuses au sein de l'armée, aussi le retrait de la RDC, de la communauté et de l'EAC. L'association Rien sans les femmes s'est exprimée lors d'un point de presse tenu vendredi 17 mars à Bukavu. On écoute Alice Kouba, point focal de Rien sans les femmes, bureau de Bukavu.
Nous femmes, réunies au sein du mouvement Rien sans les femmes, point de coordination du Sud Kivu, refusons de demeurer complices de ces atrocités et de cette injustice par notre silence. Ainsi, nous recommandons au chef de l'État de reconstruire urgemment l'appareil sécuritaire par une réforme de l'armée, d'ordonner à l'armée congolaise de jouer à l'offensive pour traquer le mouvement terroriste qui tue et pille sur le sol congolais en lieu et place de retrait stratégique continu. D'entamer en urgence le processus de retrait de la RD Congo dans le traité de la communauté de l'Afrique de l'Est. De mettre en place une commission d'enquête nationale sur les massacres et autres crimes commis à l'Est du pays et sanctionner les auteurs. De mettre en garde la CIRGL à jouer un vrai rôle de rétablissement de la paix, et cela sans mettre la RDC à la merci de mesures non démocratiques que prônent les rebelles qui nous agacent et leurs alliés.
La province du Kwango vient d'accueillir une nouvelle vague des déplacés de Kwamout venus des villages Kinsele, Fumukento et Mongata. La plupart sont des femmes et des enfants reçus au village Bachongo, Kabuba et Pan Kwango. Ils ont vidé leur village après les attaques la semaine dernière de certains villages de Kwamout ayant occasionné une vingtaine de morts. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango rapporte que près de 2300 déplacés sont identifiés à Bachongo et 235 à Pan Kwango vivant dans des conditions très précaires. Sur place au Kwango, il s'observe une surpopulation qui occasionne du coup la rareté et la hausse des prix des denrées alimentaires. Le vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, qui tire la sonnette d'alarme, plaide pour une assistance humanitaire en faveur des déplacés. Le point avec Irène Mboma.
La société civile du Kwango, qui a procédé à l'identification de ces nouveaux déplacés de Kwamout restés dans cette province, rapporte que, par exemple, au village Bachongo, ces derniers dorment dans les églises, les écoles ainsi qu'à la résidence du chef du village. Selon Symphorien Kwango, leur situation est très précaire. Il lance un SOS pour une assistance urgente en leur faveur.
Ces déplacés manquent de tout. Ils n'ont pas de ressources pour vivre. Et ils sont arrivés ici il y a 10 jours. Et nous demandons aux élus du peuple, les sénateurs, les équipes provinciales du Kwango, les hommes de bonne volonté, les ONG humanitaires, viennent en aide à ces déplacés qui sont en difficulté totale.
La même source ajoute que la présence de ces nouveaux déplacés a occasionné la rareté et la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés, renforçant ainsi la misère de la population.
On observe une surpopulation qui rend la vie très chère et même intenable. Donc pour manger, ça devient un problème. Par exemple, les bols de foufou que les gens achetaient à 1000 francs, maintenant c'est à 2000 francs. Et il y a aussi les bols de maïs qui se vendaient à 1000 francs, maintenant c'est 1500.
Signalons que cette nouvelle vague de déplacés de Kwamout au Kwango est venue s'ajouter à plus de 30 000 qui y vivaient déjà dans des conditions inhumaines. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Comme dit dans le sommaire, le chef de l'État a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation du contrat chinois dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la RDC dans l'exploitation de la sicomine. Félix-Antoine Tshisekedi l'a signifié au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier, tenu par visioconférence. Il faisait ainsi suite aux conclusions du rapport de l'IGF, Inspection générale des finances, sur le contrat chinois. Pour ce qui est de quelques cas de présumée fraude constatée à l'occasion du processus électoral en cours, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas au Kasai, au Kwilu, Chikapa et Masimanimba. On écoute à ce sujet un extrait du Conseil des ministres, lu par la ministre de la Culture, Catherine Katungu-Fura, extrait proposé par Alain Irung.
La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait rapport sur les actions engagées contre les individus qui sabotent les matériels et kits électoraux et ou qui usent de la discrimination pendant les opérations d'enrôlement. Pour ce qui est de quelques cas de présumées fraudes constatées à l'occasion du processus électoral en cours, l'officier du ministère public n'est pas resté indifférent. À ce jour, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas de parquets généraux près les cours d'appel du Kasai et du Kwilu, du parquet de grande instance de Chikapa et du parquet près le tribunal de paix de Masimanimba. Dans la ville de Kinshasa, il a été signalé l'arrestation des trois agents de la CENI qui se sont permis de délivrer quatre cartes d'électeur à M. Fabien Kouswanika. Ce dossier est encore en instruction au niveau des services spécialisés pour démanteler les réseaux à la base de la délivrance de ces cartes d'électeurs. Un rapport subséquent sera fait quant à ce, aussitôt que le parquet sera saisi.
À Kinshasa, le gouverneur de la ville s'est dit satisfait de la qualité des travaux exécutés sur les différents chantiers. Gentili Ngobila l'a dit vendredi au cours de la tournée d'évaluation qu'il a effectuée sur les différents chantiers routiers en construction à travers la capitale. De l'avenue Birmani dans la commune de Ngiringiri jusqu'à l'avenue Kikwit en passant par les avenues Ngiringiri et Elengesa, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a salué le bon déroulement des travaux. Devant la presse, il a fait savoir que depuis son avènement, Kinshasa a déjà fait beaucoup de réalisations sur le volet infrastructure dans la capitale. On écoute le gouverneur Gentili Ngobila dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous avons visité quelques avenues en construction, notamment l'avenue Ngiringiri, l'avenue Birmani, l'avenue Makanza, et de là nous sommes venus sur l'avenue Pierre-Elengessa. Nous avons sillonné l'avenue de bout en bout, commencé sur l'avenue Kasagoubou. Nous sommes arrêtés à la jonction entre Elengesa et Kikwit. Nous sommes sortis par le bypass pour rejoindre maintenant l'avenue Kikwit à partir de Kianza. Nous avons visité les deux ponts qui sont en construction. Les travaux sont nettement avancés. Ici, sur le deuxième pont ici, ils ont déjà travaillé sur de grosses structures et d'ici là, ils vont poser les tabliers. Nous pensons que d'ici la fin du mois de mai, les travaux de ces ponts ainsi que de l'autre pont qui est en aval pourront donc se terminer. Et nous pensons également que cette avenue pourra être inaugurée également vers la fin du mois de mai.
Et puis, la centrale hydroélectrique de Mobaï Mbongo dans le nord Ubangi, inaugurée depuis le 24 novembre 1989, ne fonctionne plus qu'avec un seul groupe sur les trois installés dans la première phase de ce barrage. La production et la distribution de l'énergie par cette centrale ne répond pas encore aux objectifs lui assignés. Explication Daniel Tambinzoni.
Le projet était conçu pour alimenter en énergie électrique le Grand Équateur, la République centrafricaine et la République populaire du Congo. C'est un objectif pas encore atteint puisque seulement une partie de la RCA est desservie. Le Congo-Brazzaville ne l'est pas encore. Les trois machines de la première phase devraient produire chacune 3300 kW. C'est à la 15e année que des pannes ont commencé, faute de réhabilitation, explique l'ingénieur Ngolou.
Les machines ont fonctionné à un certain moment et au fil que nous sommes arrivés aux 15e année, il y a eu maintenant des petites pannes. C'était dans la technologie de pointe, mais maintenant, aujourd'hui, il y a des pièces qui sont obsolètes. Cette centrale n'a jamais été réhabilitée. Voilà, aujourd'hui, nous sommes restés par une seule machine qui fonctionne en semi-automatique, c'est-à-dire il y a l'intervention des opérateurs côté commande de roue, en manuel, et il y a la partie qui dépend de l'automatique.
L'unique machine ne produit actuellement que 3 MW, incapable de répondre à la demande toujours croissante, d'où le délestage. Sur fonds propres, la SNEL dit avoir pu réhabiliter le groupe 3 et pourrait le remettre en service au cours du second semestre 2023, ce qui pourrait augmenter la production énergétique et répondre aux besoins locaux et des deux pays voisins, la RCA et le Congo-Brazzaville.
Direction la province du Congo central. Présentation hier samedi à la presse de Matadi de 404 projecteurs LED enlevés sur les véhicules faisant la ligne Matadi-Kinshasa. Le ministre provincial des Transports, qui s'est livré à cet exercice, indique que tous ces projecteurs LED ont été saisis grâce à l'opération de la traque forcée des véhicules comportant ces lumières additionnelles qui occasionnent des accidents mortels sur la route nationale numéro 1. À l'issue de cette cérémonie, le ministre provincial des Transports, Marc Matondo Kwanzambi, a invité les propriétaires des véhicules ainsi que les chauffeurs à se conformer à cette décision pour ne pas s'exposer aux lourdes amendes. Reportage de Nana Plurish Mambou.
L'opération de la traque forcée des véhicules comportant les projecteurs LED, à l'issue de laquelle ces 401 et 4 projecteurs LED ont été récupérés, a été lancée il y a 2 semaines à la bifurcation de Loufou en territoire de Songololo. Le ministre provincial des Transports qui l'amène affirme que l'utilisation par les véhicules de ces projecteurs non réglables est inappropriée à la circulation routière. Marc Matondo Kwanzambi.
Ces projecteurs tuent beaucoup. Si vous prenez un seul projecteur, ça peut tuer 50 personnes. Et nous avons 404 ici. Ces projecteurs n'ont pas de réglage, c'est déjà réglé à plus de 200%. Pendant les croisements, vous êtes censé vous mettre à côté. Au cas contraire, vous êtes dans les ravins.
Après plusieurs campagnes pédagogiques contre l'utilisation de ces lumières menées depuis juillet 2022, suivies cette fois-là de l'opération des traques forcées des véhicules comportant les projecteurs LED, le ministre des Transports s'est dit satisfait du résultat.
Les résultats sont positifs parce que ces derniers temps, nous n'enregistrons plus les accidents causés par ces projecteurs, surtout la nuit. Donc il y a vraiment une diminution sensible.
Après Songololo, cette opération sera menée sur les différents axes routiers de l'ex-district du Bas-Fleuve. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Demain lundi 20 mars à Moscou en Russie, Xi Jinping, le président de la Chine, rencontrera un dirigeant russe sous le coup d'un mandat d'arrêt international. La Cour pénale internationale poursuit Vladimir Poutine pour crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. La CPI a également émis un mandat d'arrêt contre Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, pour des accusations similaires. Le président ukrainien a salué une décision historique qui marque le début d'une responsabilité historique, alors que le Kremlin juge de son côté qu'elle n'a aucune valeur juridique.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le porte-parole des forces conjointes des armées congolaises et ougandaises dans le territoire de Beni au Nord Kivu et dans le territoire d'Irumu en Ituri. Le lieutenant-colonel Mac Azukai parle de l'évolution des opérations militaires contre les EDF sur terrain. Il répond également à la préoccupation de certaines organisations de la société civile de Beni qui souhaitent le déploiement des forces conjointes dans les zones du territoire où elles ne sont pas présentes. Le lieutenant-colonel Mac Azukai s'entretient avec André Kitenge.
Lieutenant-colonel Mac Azukai, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF. Comment évoluent les opérations aujourd'hui?
Les forces de la coalition sont en train de travailler, comme vous le savez, dans la zone qui nous a été délimitée. Les choses évoluent très bien grâce au soutien de la population qui a bien voulu accueillir nos partenaires de l'UPDF. C'est vrai que ce n'est pas encore le résultat attendu, mais au moins les gens peuvent témoigner du travail qui est en train de se faire. Malheureusement, l'ennemi a tendance à migrer dans une zone où nous ne sommes pas encore déployés. Aujourd'hui, il a créé beaucoup de soucis à la population. Nous saisissons cette occasion pour, au nom de la coordination, présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont été dernièrement éprouvées par les actes barbares de l'AFDEF MTM dans la partie sud de Beni. C'est vrai, depuis un certain moment, nous recevons beaucoup de correspondances de nos compatriotes de Wicha et de Bachou qui ont constaté avec nous que l'ennemi a fui les actions que nous sommes en train de mener dans Ruwenzori, au sud de Rumu. C'est une préoccupation que nous partageons parce que Nous sommes les premiers à faire ce constat que l'ennemi ne peut plus affronter les forces de la coalition. Il a tendance à se desserrer l'étau et nous travaillons par rapport à cela. Toutes les doléances de nos compatriotes ont été transférées à qui de droit.
Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des voix qui se lèvent par rapport à cette situation, comment répondez-vous à toutes ces voix qui se lèvent, qui demandent l'extension de ces opérations conjointes dans certaines zones où vous n'opérez pas?
C'est un travail de longue haleine. Je venais de vous dire ici que nous avons reçu beaucoup de correspondances dans ce sens-là et que toutes ces correspondances ont été orientées vers les autorités et nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Ça fait mal que moins d'une semaine que nous perdons beaucoup de compatriotes comme ça, c'est un souci. Voilà, c'est une préoccupation que nous partageons et nous sommes inquiets par rapport à cela et je venais de vous le dire que nous sommes en train de travailler par rapport à cela.
Au moins des dispositions sont prises pour contrer ceux-là qui sont en train de fuir les opérations dans le secteur des Rwenzori.
Les dispositions de sécurité ne s'annoncent pas dans les médias. Donc nous sommes les premiers consommateurs de toutes ces informations que la population nous donne. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui chaque jour nous alertent. Nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Donc nous ne pouvons pas annoncer dans les médias les mesures qui sont prises ou les mesures qui seront prises.
Face à tout cela, que demandez-vous à cette population qui est tenue aussi à la vigilance par rapport à l'ennemi qui est en train de migrer d'une zone à une autre?
J'ai beaucoup de respect pour la population meurtrie de Beni et ses environs. C'est une population qui, depuis un certain moment, subit cette pression terroriste de l'ennemi. C'est une population résiliente que je connais. Je demande à nos compatriotes de résister et de continuer à faire preuve de résilience et aussi de patriotisme. Qu'elle ne se fatigue pas, cette population, à nous donner, à nous alerter. C'est une erreur de penser que nous négligeons les alertes. Tout ce que nous recueillons auprès de nos compatriotes, nous analysons et nous travaillons par rapport à cela. Que la population garde contact avec nous, qu'elle continue à faire confiance aux forces armées des deux pays. Lorsque les deux chefs ont décidé de lancer ces opérations, ils avaient le souci d'éradiquer effectivement le phénomène ADEF pour permettre à la sous-région tout entière de se développer. Et moi, je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va se fatiguer. Tant que le travail n'est pas encore fini.
Lieutenant-colonel Makazukai, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Le porte-parole des forces conjointes des armées congolaises et ougandaises répondait aux questions de André Kitenge. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rumushinj, coordination de Pierrot et Lamenji, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de rester de nôtres.